l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion, qui retrouve un partenaire de Radio Évasion, l'UNAFAM, l'Union Nationale des Familles de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques, représentée par un de ses bénévoles que vous connaissez déjà, Pascal Durand, qui vit à Crozon. Nous allons évoquer avec lui les activités de l'UNAFAM, en particulier ses actions pour rendre plus visibles les personnes atteintes de troubles ou de maladies psychiques dans leur diversité, dans leur singularité, une différence, des différences, mais qui n'en a pas. Des fragilités sans doute, mais auxquelles on peut remédier. C'est aussi l'un des rôles de l'UNAFAM, aider les aidants, et nous y reviendrons également. Bonjour Pascal Durand.
Bonjour.
Donc la dernière fois, on avait lutté contre les idées reçues sur les maladies psychiques, et on va continuer sur ce sujet au travers des actions que mène l'UNAFAM en direction non pas des aidants, mais du grand public, et en particulier cette très belle opération, je trouve, de bibliothèque humaine. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est déjà ?
Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un mouvement qui est né au Danemark en 2000. Donc la question qui était posée, le problème à résoudre, c'était le problème de la stigmatisation de certaines personnes. Et comment déstigmatiser ? Alors la stigmatisation, c'est quelque chose qui est inscrit, ce qu'on appelle une représentation sociale, c'est inscrit dans la construction de la société. Et c'est très compliqué à déconstruire. Et en fait, les campagnes de communication ne permettent pas de déconstruire. La meilleure façon d'y arriver, c'est ce qu'on appelle l'effet tampon. C'est qu'en fait, ce sont deux personnes qui vont se rencontrer. Et en fait, la personne qui est stigmatisée, donc dans le cas présent, c'est une personne qui a des troubles psychiques, va raconter son histoire à l'autre personne. Et en fait, l'autre personne va découvrir la réalité. Et en fait, ça va aller à l'encontre de ses préjugés. Donc, pour lutter contre cette stigmatisation, en fait, les Danois, lors d'un festival, ils ont imaginé de faire des livres vivants. Alors, un livre vivant, c'est quoi ? C'est une personne qui va raconter son histoire. Elle raconte son histoire, donc il y a une construction, et en fait, le lecteur va écouter cette histoire et va pouvoir dialoguer, poser des questions.
Et il y a un écrit qui est produit, au fait, après la séance, entre guillemets, ou pas ?
Non, tout reste dans le plan oral, mais bien entendu, on fait travailler nos livres. C'est nos ateliers actuels, on les fait travailler de façon à ce que l'histoire soit cohérente, concise. En fait, on essaye de faire des best-sellers.
Ils pourront reproduire, bien sûr.
Alors après voilà, on peut tout imaginer, mais dans un premier temps, c'est vraiment une rencontre de deux personnes et un lecteur qui vient écouter l'histoire d'une autre personne. Et en fait, cette histoire a vocation à aller à l'encontre de ses préjugés et à découvrir en fait, les réalités de ce que la personne porte.
Et on sait pourquoi c'est le Danemark qui a lancé cette belle idée ?
On ne sait pas pourquoi. Ce qu'on sait, c'est que ça marche, parce que ça a été repris, notamment au Canada. Aujourd'hui, il y a eu 600 événements de bibliothèques vivantes qui ont fonctionné, avec de très bons retours. Et c'est vrai que sur les ateliers qu'on conduit aujourd'hui, moi, je suis vraiment bluffé des histoires que ces personnes peuvent nous raconter. Et une personne comme moi, qui suis pourtant bénévole à l'UNAFAM, qui connaît bien cet univers, vraiment, je suis bluffé. On a des très, très belles histoires.
On dit bibliothèque vivante ou bibliothèque humaine, d'ailleurs ?
Il y a les deux termes. En fait, en anglais, c'est human libraries. Mm-hmm. Et en français, ça a été traduit par bibliothèque vivante. Donc, voilà.
Et ça sera la première qu'on pourra suivre en Finistère ?
Alors, ce sera la première en Finistère. Donc, on est en train de finaliser et on aura une première lecture. Une lecture test, en fait, le 17 juin à la médiathèque Jaufourne à Brest. Donc, ça va être notre premier test avec nos livres vivants. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un beau catalogue de livres. Donc, les personnes qui sont intéressées par une rencontre de ce type, d'aller à la découverte de la vie de personnes qui ont des troubles et surtout comment ces personnes arrivent à se rétablir et à vivre des vies tout à fait satisfaisantes. Réellement, ce sont des choses extrêmement enrichissantes et qui apportent beaucoup d'espoir sur la nature humaine.
Racontez-nous comment, en détail, comment est-ce que ça s'est mis en place, cette bibliothèque vivante brestoise, enfin brestoise et quimperoise d'ailleurs, c'est les deux.
On travaille dans le cadre de ce qu'on appelle le plan territorial de santé mentale du Finistère. Et il y a plusieurs thématiques. Il y avait un chantier qui était le chantier déstigmatisation. Et en fait, dans ce chantier des stigmatisations, nous avons retenu deux projets, le projet Bibliothèque Vivante et puis un projet de théâtre d'improvisation qui est porté par Orphée Recoing.
Et dont on reparlera, ouais.
Et dont vous reparlerez tout à l'heure. Donc en fait, sur ce chantier Bibliothèque Vivante, on a une équipe projet avec des personnes qui sont des soignantes, en fait, psychiatres, psychologues, et puis aussi des pères. On a aussi des personnes concernées par des troubles, et puis l'UNAFAM, des aidants. Mm-hmm. Et donc on a travaillé, on a fait un premier atelier. D'abord, on a fait un tour des popotes hein, pour recruter des candidats à être livres. Ensuite, on a fait un premier atelier dévoilement parce que, en fait, quand vous êtes une personne qui est stigmatisée, le choix de se dévoiler, le choix de parler de ses troubles, c'est pas anodin.
Non.
Et donc, en fait, on a fait un premier atelier pour que ces personnes puissent décider en conscience, je raconte ou je raconte pas mon histoire. Donc, en fait, il y a l'arbitrage entre le secret. Avec ses avantages et ses inconvénients, parce que c'est très compliqué, en fait, aussi, de garder un secret. C'est très pesant. Et puis, cette idée de lever le secret.
Mais lever le secret, c'est prendre le risque d'être un peu étiqueté. Enfin, voilà. On en a déjà parlé aussi lors de la dernière émission.
Donc, donc en fait, on a des personnes qui font le choix de lever le secret, ce qui est courageux de leur part.
Vous leur montrez peut-être des bibliothèques vivantes qui auraient été filmées, non ? Éventuellement.
Alors, il y a eu des captations d'images. On n'a pas beaucoup de... En France, il y en a eu très peu pour le moment. Donc, moi, j'ai beaucoup... C'est beaucoup inspiré de ce qui a été fait au Québec, notamment. Québec, Suisse. On leur montre les exemples. Et en fait, le choix de dévoilement... L'avantage aussi de la bibliothèque vivante, c'est que ça permet de faire un dévoilement dans un cadre maîtrisé et bienveillant. Donc, dans une première expérience... c'est extrêmement intéressant. Alors, sur le retour d'expérience du dernier atelier qu'on a fait, Raconter votre histoire, les personnes ont un score de satisfaction qui est exceptionnel. C'est pour elles, le fait de pouvoir raconter leur parcours de vie, c'est extrêmement libérateur et ça leur amène beaucoup de bienfaits.
Bien qu'elles le fassent avec leurs professionnels de santé, en fait, ces personnes ont besoin de s'exprimer aussi.
Alors, elles ne racontent pas la même chose aux professionnels de santé. Oui. C'est pas le même récit, en fait. Mmh. Et dans l'atelier de Brest que j'anime, j'ai deux professionnels de santé qui, elles-mêmes, sont bluffées par les histoires que racontent ces personnes.
Qu'est-ce que c'est, alors, par exemple, racontez-nous des histoires, pas en entier, décrivez-nous des profils, peut-être, ou des parcours.
Alors là, on a la chance d'avoir des profils très divers. On a deux personnes jeunes qui souffrent de troubles bipolaires. On a une personne jeune qui est plutôt orientée troubles schizophrénie. Alors déjà, puis on a des personnes plus matures, en dépression profonde, également des personnes qui ont des problèmes d'addiction et comment elles combattent leur addiction. Et donc c'est des parcours de vie qui apportent beaucoup d'espoir et on voit que ce sont des personnes qui sont dans des processus de rétablissement. Donc des profils divers, riches, avec... je dirais, ce qu'on retrouve en commun, c'est une réelle envie de vivre, en fait, et d'avoir une vie satisfaisante malgré leurs troubles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles arrivent à développer des stratégies pour aller à l'encontre de leurs troubles. C'est-à-dire qu'en fait, elles développent des compétences propres de façon à retrouver une vie satisfaisante malgré les perturbations que peuvent leur amener leurs troubles. Mmh. Et ça, c'est tout à fait passionnant parce que je pense que tout à chacun, on a tout à apprendre des stratégies qu'elles peuvent développer et c'est des personnes qui ont des vraies compétences en fait.
Oui, c'est ça, oui. Mais des stratégies, ça peut être quoi par exemple évidemment pour l'addiction, on peut avoir une idée, mais sinon pour un trouble bipolaire, qu'est-ce que ça peut être une stratégie
En fait, elles arrivent en fait à. Alors, c'est ce qu'on appelle un peu l'insight, c'est en fait la connaissance de soi. Elles ont une capacité à détecter leurs troubles.
Ah ouais. En fait, des signes avant-coureurs, par exemple, de crise
ou ouais, parce que dans la bipolarité, je connais assez mal, mais en fait, il y a les périodes hautes où on est vraiment euphorique, et puis il y a les périodes basses où on est en dépression. Elles sont en fait, elles ont une capacité à observer leurs pensées et à se dire, finalement, là, y a quelque chose qui ne va pas, et je suis dans une période euphorique, et puis là, je suis en train de plonger, Et donc, elles ont une capacité, un, à comprendre comment elles réagissent. Donc, il y a une phase qui est toujours, je pense que dans le rétablissement, il y a toujours une phase de sortie du déni, en fait, hein, de dire, ah, OK, ouais, j'ai des troubles. Mmh. Elles ont cette capacité. Et puis après, effectivement, quand elles vont voir que ça ne va pas bien, elles ont cette capacité à demander de l'aide.
Oui.
Mais elles font tout pour que ça n'aille jamais pas bien.
Mais c'est, et ça fonctionne.
Je pense qu'il faut les écouter. Il faut écouter leur histoire, leur parcours de vie, leurs ressources. Parce qu'il y a une des personnes, par exemple, qui a eu une enfance difficile. Et en fait, elle nous raconte qu'en fait, elle s'en est sortie parce qu'elle rêvait. Elle se projetait faire des voyages et ainsi de suite. Et elle a fait ces voyages. Et en fait, je retrouvais... Il y a un livre d'un psychologue autrichien, Viktor Frankl, qui avait été dans un camp de concentration et qui avait observé que les personnes qui avaient une capacité à s'échapper par l'esprit survivaient beaucoup mieux. Et après, quand il est sorti, il a développé ce qu'on appelle la logothérapie. Et en fait, c'est vrai que cette capacité à avoir une vie intellectuelle très riche, c'est une vraie ressource.
Oui, d'où l'intérêt de faire aussi du théâtre. Enfin, des...
Tout à fait. Mmh. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont... ils vont se construire un système de ressources, ils vont chercher leurs ressources pour pallier les problématiques de leurs troubles.
Mmh. Et donc ça, ils vont le... Alors, en fait, ces personnes commencent par raconter oralement leur récit et elles l'écrivent après ou quelqu'un d'autre l'écrit ou...
Non,
comment ça se passe?
En fait, elles le racontent, elles l'écrivent.
Elles-mêmes, d'accord.
Elles l'écrivent elles-mêmes pour bien le raconter.
D'accord.
Et la structure de ces récits, en fait, est toujours conçue sur le même modèle. C'est... comment sont nés mes troubles, qu'est-ce que j'ai vécu ma période de troubles, et puis à un moment donné, il y a une inflexion qui va me permettre de commencer un parcours de rétablissement et comment je me rétablis.
Mmh.
Ça, c'est extrêmement intéressant, puisqu'on voit en fait que même dans des situations, parce qu'il y a des parcours de vie qui sont complexes, cabossés, c'est comment ces personnes se redéfinissent, se réinventent. En fait, comment elles redéfinissent leur identité.
Oui, c'est une adaptation finalement, en fait, c'est ça.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un avant et il y a un après. C'est que la difficulté, c'est que quand vous avez, en fait, quand vous avez un choc qui est important dans votre vie, vous vous êtes construit une identité, vous vous êtes construit une représentation de vous-même et vis-à-vis des autres.
Oui, bien sûr.
Et puis à un moment donné, il va vous arriver un événement qui fait que cette représentation, elle ne va plus fonctionner. Vous avez deux solutions, c'est ou vous vous accrochez à votre ancienne représentation.
Le déni,
comment on dit. Déni, mais en fait, vous n'y arriverez jamais. Ou alors, vous dites, OK, j'ai cette zone de faiblesse, et il faut que je me reconstruise une autre représentation. Et en fait, elles y arrivent, elles ont une compétence, en fait, elles ont développé des compétences pour se reconstruire cette représentation, notamment vis-à-vis d'elles-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
Et ce récit dure à peu près combien de temps?
Alors là, on est sur des formats. En fait, l'idée, c'est d'avoir un récit de l'ordre de 10 minutes.
Ah ouais.
Et en fait, il y a un échange qui dure 10 minutes. En fait, l'idée, c'est d'avoir des formats 20 minutes.
Ah oui, donc il y a d'abord une partie récit, et après on pose des questions, enfin, on échange avec le public, échange avec la personne.
Le lecteur échange avec le livre.
Mais il y a un seul lecteur, vous dites un lecteur.
Alors ça, on va leur laisser le choix.
Ah oui,
c'est où vous choisissez d'être avec un seul lecteur, ou vous pouvez avoir 2, 3, 4 lecteurs. Bon, là, on expérimente, c'est qu'en fait, émotionnellement...
Oui, c'est pas évident de parler devant un grand public.
Pas évident, donc,
bien sûr.
Donc on va pas aller tout de suite devant des publics, on veut surtout pas le faire. C'est déjà vivre l'expérience avec un ou deux lecteurs. Une fois que vous l'aurez vécu, vous avez un retour émotionnel. Regardez vos émotions, comment vous l'avez vécu. Et est-ce que vous pensez que vous pouvez aller devant un public plus important?
Et la personne en question, le lecteur ou la lectrice, sera quelqu'un de relativement néophyte en la matière. En fait, c'est l'intérêt aussi d'avoir quelqu'un qui ne connaît les maladies psychiques. En fait.
L'intérêt, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est d'aller à la rencontre de personnes qui ont des réalités de vie différentes, en fait, de lever ces préjugés.
Bien sûr, toujours.
On a tous des préjugés, je dirais. À partir du moment où on vit en société, notre société, elle est construite avec des représentations qui ont des préjugés. L'événement qui avait été réalisé au Danemark, vous aviez des personnes qui étaient des personnes migrantes. Vous aviez,
oui, c'est ce que j'allais dire, ça pourrait très bien fonctionner avec des personnes migrantes.
Il y avait des personnes migrantes, il y avait des policiers qui présentaient leur réalité de vie à des jeunes qui étaient dans un festival de rock. Enfin, C'est simplement, à un moment donné, deux personnes qui vont se rencontrer.
Oui, ce n'est pas la maladie psychique. Hein. Ça peut être n'importe quel thème, en fait, pour faire une bibliothèque vivante.
Ouais. Deux personnes qui ont des parcours de vie différents. Et puis, à un moment donné, il y a une personne et ça permet de découvrir des réalités qui vont à l'encontre de la représentation qu'on peut avoir.
Fort passionnant. Vous aurez eu combien de séances, alors à Brest et à Quimper, avant de cette première, ce premier test du 17 juin ?
Là, on aura eu 4 séances, en fait.
Raisonnable, quoi.
Ouais.
Et là, les gens sont tous restés jusqu'à la fin. Il n'y en a pas qu'on lâchait en cours de route.
Non, mais on en a. Mais ça, on s'y attendait.
Oui, si bien sûr. Non, mais c'est pour savoir.
À partir du moment où on fait un premier atelier sur le dévoilement, en fait, l'intérêt, c'était de mesurer que les personnes aient une idée claire de ce que ça impliquait pour elles en termes de représentation sociale, d'émotion. Il y a des personnes qui ont dit OK, c'est pas le moment.
Oui, mais qui y reviendront peut-être après, quoi.
Bien sûr, parce que je pense que sur le plan mental, psychique, on n'est jamais, c'est pas linéaire. Il y a des moments où vous pouvez être en forme, il y a des moments où vous êtes moins en forme. Donc il y en a qui ont dit OK, je suis fatigué, c'est pas le moment de faire. Où le contexte ne s'y prête pas. Ou pour le moment, j'arrive pas assez à gérer mes émotions. Mmh. Et ça c'est ce qu'on avait prévu. Je dirais, c'est logique.
Et donc, cette séance qui a lieu à Brest, il y aura une dizaine de livres humains, c'est ça ?
On espère qu'il y aura une dizaine de livres humains et on espère quelques lecteurs quand même.
Est-ce qu'il faut réserver ou
Non, il ne faut pas réserver. Enfin, on va communiquer sur cet événement. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire un test à Brest. Hein. Et puis après, il y a la semaine d'information sur la santé mentale qui va se dérouler donc du 9 au 20 octobre. Et là, on referait des lectures, mais dans la médiathèque, à la médiathèque de Quimper, médiathèque de Brest. Mais ça, il faut qu'on passe le test déjà de Brest le 17 juin.
Et c'est à quelle heure à la médiathèque Geoffourne ?
On est en train de fixer tout
d'accord.
ça.
D'accord. On va sur le site ou la page Facebook de l'UNAFAM, non ?
Oui, tout à fait. On communiquera au niveau de l'UNAFAM. Et je pense qu'on fera une communication aussi au niveau du plan territorial de santé mentale, puisque c'est porté par le plan territorial de santé mentale.
Alors ça, c'était une action proposée par l'UNAFAM. Il y a une autre action.
Il n'y a pas que l'UNAFAM.
C'est
un groupe qui est multiple. L'UNAFAM est partenaire en fait de cette opération, mais c'est une opération qui est portée par plusieurs acteurs du territoire.
Très bien.
Voilà.
Et il y a une autre opération qui est menée en collaboration avec l'association des fêlés de l'orthographe de Bourblanc, qui est une dictée qui, paraît-il, a déjà eu lieu. Enfin, c'est la troisième, c'est ça ?
Oui, c'est la troisième dictée. Donc, en fait, c'est un événement qui a lieu à Morlaix. C'est la dictée du printemps qui a lieu le samedi 3 juin à 14h.
À quel endroit exactement ?
Alors, c'est au collège Saint-Augustin à Morlaix. Et donc c'est pareil, l'UNAFAM est partenaire et en fait il y a d'abord la dictée et pendant les corrections de la dictée, donc l'UNAFAM présentera ses diverses actions aux personnes qui seront venues en fait participer à cette dictée.
Et on participe à la dictée. C'est un texte qui est abordable, hein, c'est ça. C'est pas un texte particulièrement difficile. Il a été écrit un peu exprès.
Alors a priori oui, mais il y a des catégories. Il y a la catégorie lycéen, adulte amateur et adulte confirmé.
Il pourrait y en avoir d'autres encore. Ah, il y a la catégorie champion aussi, je vois. Et il pourrait y avoir d'autres catégories en fonction des personnes qui seront présentes. Il peut y avoir des catégories professionnelles de santé, élus. Il y en a assez, c'est ça.
Oui, tout à fait.
Enfin, c'est bon enfant. On n'est pas là pour. On n'est pas là pour se.
C'est plus pour s'amuser.
Ouais, voilà. On est là pour s'amuser, tout à fait. Donc ça sera le 3 juin à 14h, donc au Collège Saint-Augustin de Morlaix. Et vous disiez que c'est l'occasion pour l'UNAFAM de faire connaître ses actions du quotidien. Alors cette fois plus interne. Envers les membres, les adhérents, les proches, les familles.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça ?
Alors, l'UNAFAM aujourd'hui, la première des choses, c'est l'aide et l'information aux aidants. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un proche qui déclare des troubles psychiques, vous êtes totalement démunis parce que l'information sur ces sujets-là circule très mal. Et également, on a tous nos préjugés. Donc,
vous aussi, enfin, les parents aussi.
Quand mon fils est tombé malade, j'étais pris au dépourvu. Et bon. Donc, la vocation de l'UNAFAM, c'est d'informer sur les parcours de soins, les parcours d'aide pour les proches, et puis également d'aider avec des groupes de parole.
Oui,
donc, ça, c'est,
déjà.
Et aujourd'hui, donc, l'UNAFAM, il y a aussi, au niveau national, tout un travail auprès des élus pour faire avancer les textes vis-à-vis des personnes qui ont des troubles psychiques, donc notamment sur la prestation compensatoire du handicap psychique, il y a eu une modification législative qui a été fortement impulsée par l'UNAFAM de façon à ce que ce handicap soit mieux pris en compte.
Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas... c'est pas l'allocation adulte handicapé, si, c'est
alors,
ça ?
Il y a l'allocation adulte handicapé d'une part, mais il y avait aussi des prestations, c'est-à-dire que quand vous êtes certaines formes de handicap psychique profond, demande d'avoir des personnes aidantes, par exemple pour faire du ménage et ainsi de suite, et vous avez une prestation compensatoire, et donc en fait la problématique c'était la reconnaissance du handicap psychique pour avoir en fait le bénéfice de ces prestations. Donc là il y a une modification législative qui permet aujourd'hui à ces personnes d'être éligibles à ce type de prestations. Ça c'est aussi une action de l'UNAFAM, que le handicap psychique soit mieux pris en compte dans nos sociétés.
Et surtout de nos jours où on commence à prendre conscience qu'il est un peu partout finalement le handicap psychique, le trouble.
Le sujet de la santé mentale il est central aujourd'hui, mais on a toute la période post-confinement et on voit que en termes de santé mentale, cette période a eu un vrai impact, notamment au niveau de nos jeunes. Je parlerai rapidement de l'éco-anxiété. C'est vrai que la problématique du futur, en fait, toute l'anxiété liée au futur amène des problématiques de santé mentale.
Spécifiques, oui. Hein,
spécifiques. Ouais. Donc c'est un sujet qui va, je pense, malheureusement prendre de plus en plus d'espace. Malheureusement ou heureusement, parce qu'en fait, si je reviens à mes bibliothèques vivantes, on voit qu'en fait, il y a plein de stratégies pour bien gérer ça et mieux gérer ça.
Heureusement, quelque part.
Et qu'en fait, il faut pas se laisser aller à la désespérance. Il y a un vrai message d'espoir, c'est que même avec des troubles, en fait, on arrive à avoir des vies tout à fait satisfaisantes.
Et pour les proches, c'est important, vous me disiez, de se former à ce que fait notamment l'UNAFAM.
Oui, en fait, il y a eu une action qui a été développée avec l'hôpital de Lyon, du Vinatier, en fait, c'est du co-développement entre des personnes concernées, des aidants, l'UNAFAM, et puis des équipes soignantes qui s'appellent Bref. Bref, en fait, c'est ce qu'on appelle une de la psychoéducation. C'est en fait se former aux troubles, à la connaissance des troubles et comment réagir et vivre avec une personne qui a des troubles. Et c'est extrêmement important d'être formé rapidement, parce que c'est très déstabilisant, d'être formé rapidement, ça permet d'aider la personne, de mieux l'aider, de s'aider soi-même. Et surtout, en fait, au niveau des pronostics, les études montrent, par exemple, que dans le cas de troubles de type schizophrénique, des aidants formés qui participent au parcours de soins, c'est 40% de rechute en moins.
Donc si on est parent, qu'on sait comment prendre en fait une personne atteinte de troubles schizophréniques, ça se passe d'autant mieux. Quoi.
Ça se passe d'autant mieux
pour tout le monde d'ailleurs.
Pour tout le monde, et effectivement le cercle familial, le cercle des dents fait partie du parcours de soins.
Mm-hmm. Mais il faut le savoir ça.
Et il faut le savoir, et en fait donc, dans cette formation qui s'appelle Bref, en fait, qui dure 3 jours, c'est 3 séances. Hein, donc la première séance, c'est... dans ces groupes, il y a généralement, il y a une infirmière psychiatrique, un psychologue et puis un aidant de proche. Et qui, la première journée, c'est on relate son parcours. Après, la deuxième séance, c'est on va parler de son proche qui est malade. Et puis, la troisième séance, on va se recentrer sur son parcours. Et en fait, ça permet en fait, de découvrir en fait, quels sont les systèmes d'aide, comment réagir, les clés en fait, pour bien vivre avec une personne qui a des troubles.
Et ça s'appelle Bref aussi, parce que sinon c'est très long, c'est ça normalement
Jusqu'à maintenant, en fait, si vous voulez, le d'abord ça n'existait pas.
Déjà, oui.
Donc vous aviez un enfant qui développait des troubles, ou un ado en fait qui développe des troubles. En fait, vous étiez dans la découverte, enfin dans l'inconnu, parce que le niveau d'information était extrêmement faible. Donc ça n'existait pas et souvent il fallait attendre 7 ans, 8 ans pour vraiment avoir une conscience des troubles qui sont développés.
Donc, et pour faire son expérience aussi.
Pour faire son expérience, pour construire son expérience. Et ça, c'est un retard. On sait que dans les troubles psychiques, plus c'est plus pris tôt, meilleur est le pronostic de rétablissement. Donc, plus le cercle familial va être formé tôt à ces problématiques, meilleur est le pronostic.
Et c'est pas forcément des méthodes compliquées. Enfin,
c'est très simple, c'est en fait. C'est des méthodes très simples. C'est des méthodes. c'est en fait les opérations brefs, c'est souvent du jeu de rôle en fait. C'est souvent du jeu de rôle, c'est qu'en fait on va jouer un rôle et puis derrière il y a les personnes qui sont là, les soignants et les aidants qui vont dire oui mais là et en fait ça permet en fait d'acquérir des compétences réelles.
Mmh. Voilà. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. On sait comment réagir,
on sait
exactement
comment réagir,
quoi.
Exactement.
Ce qu'on doit dire, sur quel ton même on doit le dire, c'est ça, par
ouais, exemple. Oui, tout à fait.
Ouais, on peut avoir un petit exemple, enfin, je ne sais pas si vous en avez.
Non, je n'ai pas trop d'exemples en tête, ouais. mais en fait, c'est ça, c'est de se dire, bon, c'est comment. C'est surtout de prendre conscience de ce que la personne qui a des troubles vit. Parce que c'est vrai que c'est d'arriver à avoir ce décalage, par exemple. Ce sont des personnes qui sont très désorganisées. L'organisation, pour elle, c'est un vrai sujet. Il y a une métaphore qui va dire que pour une personne qui a des troubles, certains types de troubles, en fait, mettre des assiettes dans un lave-vaisselle, c'est aussi compliqué que pour nous ranger la maison.
Il faut le savoir, quoi.
Il faut le savoir.
Bon.
Il faut
et le ne savoir. Pas dramatiser avec ça, en fait.
Il faut le savoir, c'est que ça leur demande... Ils ont perdu ce type de compétences, mais ce type de compétences peut se réapprendre. Donc, en fait, ils perdent des compétences sociales, mais en fait, ces compétences sociales, c'est tout ce qui est l'idée, en fait, de la psychoéducation, c'est qu'en fait, on peut les rééduquer à retrouver ces compétences sociales. Mais il faut le savoir qu'ils les ont perdues. Donc, ce n'est pas de la mauvaise volonté.
D'accord.
C'est si une chambre est en foutoir, ce n'est pas parce que c'est de la mauvaise volonté, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire.
Pathologique, comme on dit.
C'est pathologique.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal Durand.
Je vous en prie.
On se retrouvera. Merci à l'UNAFAM et puis à bientôt. Et vous pouvez réécouter, bien sûr, cette émission sur Radio Évasion.
Merci.